penser et dire sa foi. Une émission proposée par Jean-Michel Poirier. Penser et dire sa foi, en dialogue avec des enseignants de l'Institut catholique de Toulouse pour mieux comprendre et communiquer la foi chrétienne.
Nous retrouvons frère Gilles Danroc qui, la semaine dernière, nous a introduit aux conditions historiques qui ont vu apparaître cette figure majeure pour la pensée chrétienne, pour la foi chrétienne et pour la théologie, qu'est saint Thomas d'Aquin. Alors, pour l'instant, il n'est pas encore canonisé. C'est ce Thomas d'Aquin qui vient du sud de l'Italie, de la région napolitaine. Et nous l'avons suivi à Paris et ensuite à Köln, ou Cologne, où il a étudié auprès d'Albert, qui plus tard a été nommé saint Albert le Grand. Et maintenant, vous nous avez indiqué tout à fait à la fin de la dernière émission que après ces stations, ou ces séjours plutôt, dans le Nord, il va redescendre en Italie.
Alors oui, mais il a apporté l'Italie aussi. Il faut penser que dans le petit studium de Naples, où il va revenir tout à la fin de sa vie, pour être régent des études, c'est-à-dire en plus les organiser, trouver tout ce qui peut avoir quelque chose d'organique. Mais Paris lui a déjà donné, moi je crois que c'est très important à rappeler, le goût et la force de la lecture des Écritures pour en faire un commentaire aux étudiants et des commentaires qui sont de plus en plus écrits. Et qui vont donc, le lecteur se donne à lire. Ce n'est pas qu'une tradition orale, c'est aussi une tradition de texte à texte. Il faut remplir
ces textes. Nous avons beaucoup insisté là-dessus la fois précédente, et peut-être faut-il rappeler que pendant longtemps, un des lieux majeurs de transmission des textes a été les milieux monastiques.
Oui.
Et là, nous sommes aussi à une période de l'histoire où naissent les universités. Donc, la transmission de ce savoir ne se fait pas uniquement dans le... Bien qu'il va continuer quand même, hein, bien sûr, dans les milieux monastiques et religieux, mais dans l'université.
Oui, et justement, c'est ce passage presque de la campagne à la ville, du monastère à l'université dans un contexte urbain. Et c'est pas pour rien que ce sont les villes où siègent les puissants, les rois qui vont comme Philippe Auguste. C'est lui qui fonde l'Université de Paris. Mais il y a aussi cette idée de cursus, cette idée de formation sur un temps assez long, dont Paris a assumé pour Thomas d'Aquin la grande formation à la Bible et à la primauté du rapport à la Bible comme un rapport à Dieu, un Dieu qui se révèle dans les Écritures. Il se révèle dans la vie, dans l'histoire et dans les Écritures, qui donne justement une forme à la pensée. La pensée écrite n'est pas la même que la pensée orale. Dans cette pensée écrite, déjà, Thomas, outre l'apport des Victorins, dont on a parlé, qui sont typiques du XIIe siècle, de cette culture qui va du monastère déjà vers au-delà du monastère, qui transpire, si je puis dire, et qui sort. Et là, déjà, il y a une forme intellectuelle qui est la logique d'Aristote, la logique de l'argumentation. Et le livre un peu le plus connu à l'époque, c'est le Sic et Non, le oui ou non, d'Abélard. Et c'est surtout les sentences, c'est un recueil de sentences qui vont devenir la matrice de l'enseignement dans les deux sens, c'est-à-dire l'étudiant qui étudie les sentences de Pierre Lombard, donc il vient de Lombardie, vous voyez, ça vient du sud, et ça s'est monté à Paris et à Oxford, etc. Et c'est cette matrice alliant scruter les Écritures et organiser le débat. Et c'est le passage, justement, du XIIe au XIIIe siècle qui nous intéresse, parce que les monastères vont être pris dans la prédication de la croisade, ils vont être pris dans une sorte d'expansion du christianisme en direction de Jérusalem, mais qui va couvrir la question militaire. Il faut organiser l'Église pour qu'elle puisse prendre Jérusalem. Elle a prise en 1099, et tout le XIIe siècle va être mobilisé entre monastères et pèlerinages et croisades.
Alors Thomas, lui, il est de quel côté?
Ben justement, il est du côté du XIIIe siècle naissant, c'est-à-dire du passage justement de cette culture monastique en expansion à la culture de l'université, où il va falloir vérifier aussi tous les textes. Il va falloir organiser le débat. Et il l'a commencé à Paris. Je crois que Saint-Albert le Grand est déterminant de ce point de vue-là, comme une attention scientifique à la botanique, à la géographie, à tous les textes de l'Antiquité, une ouverture de l'esprit en même temps qu'elle est en dialogue, en argumentaire, si vous voulez.
Autrement dit, on peut dire que c'est une époque où, vous avez parlé d'ouverture d'esprit, en fait, on est en débat avec les grands domaines du savoir humain de l'époque.
Absolument.
C'est-à-dire qu'on ne bâtit pas une théologie uniquement à partir des textes proprement bibliques ou de la tradition chrétienne, mais aussi en dialogue avec les autres domaines du savoir, et en particulier, vous l'avez mentionné, la philosophie d'Aristote. Alors donc, il revient donc en Italie, alors à Rome.
Alors, il revient... Alors, vous savez que le pape lui-même n'est pas fixé à Rome, mais un peu comme le roi d'Espagne, enfin de Castille, ils vont de lieu en lieu, c'est arrivé aussi en France, et le centre universitaire, c'est plutôt Orvieto. Bon, en tout cas, c'est dans la région de Rome, à Rome même, où on va lui demander d'être régent. Régent, c'est-à-dire organisateur, comme il le sera aussi à Naples. Il va donc avoir des cours à donner, des livres à publier, mais aussi à essayer de comprendre comment s'organise l'ensemble de la formation biblique, philosophique et théologique. Et c'est à Orvieto et à Rome qu'il va rencontrer quelqu'un qui va avoir une grande influence sur lui, qui va lui permettre plutôt de développer, par exemple, l'écriture de la Somme de théologie que nous connaissons aujourd'hui. C'est Guillaume de Merbeck, qui est un excellent grécisant, qui sait traduire du grec au latin, avec un latin d'une finesse que saint Thomas va étudier justement pour les commentaires d'Aristote qu'il commence à cette époque.
Il faut rappeler que nous sommes à une époque où depuis d'ailleurs des siècles, le bassin méditerranéen, il y a le côté latin et il y a le côté grec avec... Et on rappellera qu'un saint Augustin qui maîtrisait le latin à un niveau extrêmement supérieur, ne savait pas lire le grec, en tout cas ne savait pas...
Voilà.
Et Thomas, lui, va découvrir...
Il y a déjà l'influence, je vous l'ai dit, d'Aristote ou de la philosophie.
Il va pouvoir les lire dans les textes, enfin dans la langue, si je puis dire plutôt.
Non, il lit des traductions excellentes.
D'accord.
Mais il ne lit pas le grec.
Alors, c'est plutôt la pensée grecque à laquelle...
Pensée grecque, voilà. Exactement. Mais la pensée grecque, ce n'est pas que Aristote, hein, c'est tout le néoplatonisme. Et c'est aussi quelque chose qui nourrit saint Thomas. Il cite continuellement les pères de l'Église. Donc là aussi, il y a des manuscrits de plus en plus élaborés, si vous voulez, fidèles, qui sont à sa disposition et qu'il va pouvoir commenter. Et il va pouvoir surtout, c'est son génie, capter dans les livres qu'il lit, il capte une intelligence de la foi qu'il met au service de l'Église avec un génie très puissant.
Autrement dit, il rapatrie, enfin, il s'ouvre à toutes sortes de domaines, à toutes sortes d'auteurs, de traditions, mais il va être capable de les organiser, parce qu'on peut lire beaucoup et ne pas avoir un esprit synthétique.
Voilà.
Évidemment, avec Thomas d'Aquin, on a affaire à un esprit avec une très haute intelligence, capable de synthétiser, d'organiser et de produire du nouveau. Voilà.
Et à la fois le souci du détail, de l'argument.
Et il va le faire effectivement toujours dans cette optique de ce qu'on appelle la disputatio, c'est-à-dire le débat. Eh bien, c'est de cela dont nous nous entretiendrons lors de l'émission de la semaine prochaine, qui sera la dernière, avec vous, frère Gilles, sur Thomas d'Aquin, la grande figure de saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église. Merci et à la semaine prochaine.